Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver sur nos ondes locales pour évoquer une nouvelle chronique du passé. Bonjour Martine.
Bonjour Gilliane et bonjour à tous. En cette année 2024, le gouvernement a décidé de commémorer solennellement le débarquement du 6 juin 1944. Dans un proche avenir, nous dirons comment il a été vécu en Bresse et Revermont. Mais avant, nous proposons à nos auditeurs un autre sujet de cette guerre 1939-1945.
Nous nous intéressons aujourd'hui à un aspect un peu oublié de cette période, l'occupation italienne. Pendant plus de 10 mois, de novembre 1942 à septembre 1943, une partie de l'Ain a été placée sous une juridiction italienne.
Outre la guerre, il est intéressant de développer ce sujet au moment où l'association franco-italienne de Bourg-en-Bresse a décidé de faire de 2024 une année de mémoire. Avant-guerre, la communauté italienne représentait environ 500 personnes pour la seule ville de Bourg-en-Bresse, qui comptait alors 25 000 habitants.
Nous développons ce double thème après avoir écouté Bella Ciao, le chant de révolte des partisans italiens en 1940.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
Nous évoquons les Italiens de l'Ain pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils vont occuper une partie du département, mais avant, nous rappelons les débuts de la guerre.
Nous pouvons dire que la guerre commence avec l'accession de Hitler au pouvoir en Allemagne en janvier 1933. Il impose rapidement sa politique par des méthodes brutales, répressives et racistes. Néanmoins, il est fasciné par l'Italien Benito Mussolini, le Duce, au pouvoir depuis octobre 1922. Mussolini a imposé rapidement sa dictature et son culte de la personnalité par des méthodes répressives.
Hitler a été impressionné par la réussite de la marche sur Rome de Mussolini, alors que lui-même a piteusement échoué dans son coup d'État de 1923 à Munich. Chancelier, Hitler se sent encore un peu isolé en Europe par son idéologie. Il souhaiterait s'allier avec Mussolini qui, lui, a atteint le but que lui-même recherche, une mainmise sur le pays.
Dans un premier temps, l'admiration est à sens unique. Mussolini n'a que peu de considération pour Hitler et il se montre volontiers hautain lorsqu'il accepte de le recevoir à Venise en juin 1934.
Le Duce se méfie du pan-germanisme d'Hitler qui ne peut pas être compatible avec ses propres visées sur l'Autriche. Il cherche même à établir un front anti-Hitler. Cette démarche aboutit en avril 1935 à un accord avec l'Angleterre et la France, la Strezza, au bord du lac Majeur.
Mussolini croit avoir obtenu un blanc-seing de ses alliés. Il pense pouvoir se lancer, sans risque, à la conquête de l'Éthiopie dès octobre 1935. Mais l'Angleterre alerte aussitôt la Société des Nations qui vote des sanctions contre l'Italie. Mussolini est furieux. Cela brise son projet d'être nouvel empereur romain.
La Société des Nations revient un peu en arrière et les sanctions sont pratiquement annulées, mais le mal est fait. Le Duce a exploité ce fait pour sa propagande. Il se trouve mieux disposé envers Hitler, lequel obtient son pacte d'assistance militaire le 22 mai 1939.
Mussolini a signé ce pacte contre l'avis de son ministre des Affaires étrangères, le comte Ciano, son propre gendre, et contre l'avis aussi de son état-major. Ceux-ci ont conscience que Hitler joue un double jeu et que l'armée italienne n'est pas prête ni équipée pour mener une guerre.
Lui, Mussolini, espère échapper à une guerre qui paraît cependant inéluctable. Il déclare l'Italie en état de non-belligérance lorsque Hitler attaque la Pologne en septembre 1939 et il observe l'évolution des combats.
Hitler est victorieux sur le front de l'Est. Puis, sur le front de l'Ouest, lorsqu'il lance son offensive fulgurante le 10 mai 1940. Lorsque les Allemands sont proches de Paris, où leurs troupes défileront le 14 juin, Mussolini choisit alors son camp. Et le 10 juin 1940, il déclare la guerre à la France dans l'espoir de récupérer quelques territoires. Cette déclaration de guerre est ressentie comme un coup de poignard dans le dos.
À Bourg, l'éditorialiste du journal de l'Ain est furieux et traite de chacal, le dirigeant italien qui a attendu jusqu'au dernier moment pour être du bon côté. Hitler étant proche de la réussite, il s'allie à lui pour avoir sa part du gâteau. Si Hitler avait échoué, Mussolini aurait mis en avant sa non-belligérance pour obtenir de la bienveillance.
Oui, mais cette duplicité ne plaît nullement à la population burgienne, qui manifeste son hostilité envers les Italiens locaux dès le soir même, dans plusieurs quartiers de la ville. Des coups sont échangés et la gendarmerie doit intervenir pour préserver un magasin du cours de Verdun.
L'entrée en guerre de l'Italie, les Burgiens la vivent dramatiquement le dimanche 16 juin vers 16h lorsque 6 avions italiens venant du nord bombardent la gare. Les obus tombent dans les alentours, sur quelques immeubles, sur l'école du Peloux et surtout sur la Tréfilerie Câblerie à la sortie de la ville. La gare n'a pas été atteinte, mais ce bombardement a provoqué 13 morts et 25 blessés.
Toujours selon le journal de l'Ain, la moitié des habitants auraient quitté la ville dans la crainte de nouvelles attaques. En fait, il n'en est rien. Mais les Allemands traversent Bourg au matin du 19 juin, sans résistance, celle-ci ayant été déclarée ville ouverte.
On connaît plus ou moins la suite. Un premier armistice signé avec les Allemands le 22 juin et un second avec les Italiens signé le 24 juin. Ces deux armistices sont applicables le 25 juin. L'un est dans la zone non occupée. Les Italiens ont obtenu une cession de territoire peu importante et une zone démilitarisée de 50 km de profondeur le long de la frontière.
L'Ain n'est pas concerné par ces mesures, puisqu'il est administré par Vichy. Mais partout, la situation change après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord, le 9 novembre 1942, et le franchissement de la ligne de démarcation, le 11 novembre 1942. L'Italie revendique l'occupation d'une zone comprise entre sa frontière et le Rhône.
Les Allemands la lui accordent, sauf la zone autour de Marseille. La ligne de séparation de l'occupation italienne démarre au nord d'Avignon, contourne Aix-en-Provence et rejoint la mer Méditerranée à l'ouest de Toulon. Tout au nord, curieusement, elle partage l'Ain, l'est du département passant sous l'autorité italienne. Partant de Bellegarde, la ligne suit alors la route nationale 84 par Nantua, Pont-d'Ain, jusqu'à Lagnieu. Les archives des négociations en donneraient peut-être la raison, mais elles ne sont pas conservées dans l'Ain.
Ainsi, 155 communes du département se retrouvent sous domination italienne. La Bresse, le Revermont et la Dombes ne sont pas concernées. Mais la communauté italienne y est suffisamment forte, hier comme aujourd'hui, pour que nous évoquions cette particularité de la guerre. Si les soldats italiens sont très nombreux dans certains départements, 46 000 dans le Var par exemple, ils ne sont que 800 dans l'Ain.
La guerre italo-française n'a pas été réactivée et cette occupation est supportable. Le fascisme italien n'ayant pas l'idéologie raciste du nazisme allemand. Toutefois, les Italiens se comportent comme toute armée d'occupation. Ils se permettent quelques actes illicites.
En certains endroits, ils chassent en période prohibée. Ils pêchent à l'explosif. Ils se servent dans les champs cultivés ou réquisitionnent des animaux dans les fermes. Bah, en somme, ils veulent améliorer leur ordinaire. Quelquefois aussi, ils se laissent aller à des tirs d'intimidation. Et de leur côté, des Français leur adressent des propos ou des gestes désobligeants, l'Italie n'ayant pas brillé dans ses offensives.
Tout cela reste des chamailleries, mais un incident prend plus de proportions à Lagnieu lorsque des hommes de Sobrena vont à la visite médicale en vue de leur réquisition au STO, service du travail obligatoire en Allemagne. À leur sortie, quelques-uns vont uriner contre le camion d'un marchand forain italien.
Celui-ci va solliciter des soldats italiens pour organiser une action punitive à Sobrena. Là, le marchand reconnaît les fautifs dans un café. Les soldats les capturent et les emmènent à l'extérieur du village pour les tabasser et ainsi laver l'affront. Nous n'avons pas les détails des blessures infligées, mais quelques jours plus tard, une bombe artisanale explose devant la boutique du marchand, en provoquant quelques dégâts. C'est l'incident le plus grave dans l'Ain. Et en Italie ?
Eh bien, en Italie, la situation évolue. Mussolini est mis en minorité le 25 juillet 1943, lors du Grand Conseil fasciste. Il est destitué par le roi et aussitôt remplacé par le maréchal Pietro Badoglio. Comme l'Allemagne, l'Italie est bombardée et les habitants de l'Ain entendent les avions qui survolent le territoire.
Et au même moment, les Alliés ont débarqué en Sicile et ils progressent rapidement. L'Italie change alors de stratégie et engage des négociations secrètes avec les Alliés. Un armistice est signé le 3 septembre 1943 et dévoilé le 8 septembre. Les Allemands prennent aussitôt le contrôle de la zone italienne.
Et cela très rapidement, car la radio anglaise, la BBC, annonce l'événement vers 18h30. Et les Allemands se présentent 9 heures plus tard, à 3h30 du matin, à la gendarmerie de Belley pour réquisitionner des véhicules. Vers 9 heures du matin, ils arrêtent environ 40 Italiens au camp d'aviation d'Ambérieu. Le 12 septembre 1943, les Allemands confirment leur prise de contrôle de l'ancienne zone italienne par une ordonnance. La parenthèse italienne se referme.
De leur côté, les autorités de Vichy ne sont pas en reste, car le 20 septembre 1943, ils ont déjà interné 18 Italiens indésirables et expulsé 13 autres en Italie. En étudiant les archives du STO dans l'Ain, on constate que les Italiens totalisent 136 des 156 réquisitions d'octobre 1943, soit près de 90%. Le STO est interrompu en novembre et décembre 1943. Les Italiens sont 77 parmi les 81 requis du premier trimestre 1944.
Ces chiffres interpellent. Les ressortissants italiens sont d'ailleurs dans une position difficile, désormais mal aimés de tous, mais certains s'engagent, ou se sont déjà engagés, dans la résistance. Ils redoutent l'autorité allemande qui ne les épargne pas, même après le rétablissement de Mussolini par les Allemands en Italie du Nord. Ils sont moqués par les Français qui ne leur pardonnent guère les faits écoulés. Et le conflit se prolonge en Italie jusqu'au 2 mai 1945, jusqu'à la capitulation des dernières troupes allemandes.
Ouais, la guerre, c'est une bien triste période. Nous l'abandonnons avec une chanson plus réjouissante. Funiculi, Funicula, par Luciano Pavarotti. Mais avant, nous remercions Jimmy à la technique et Rémi qui nous a fait part de ce dossier méconnu dans l'Ain. Au revoir, au mois prochain.
Tu sai adò, adò sto cuore ingrato più dispiette, far me non può, adò lo fuoco coce ma si fuie, te lascia sta, e non te copre a priesse, non te struie, so a guardare. Yammo, yammo, coppa yamma ya. Yammo, yammo, coppa yamma ya. Pule, 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 pula. Pule, 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 pula. Yamma, yamma ya. Pule, 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 pula. aiuto in essere s'aiuto alla capa già e chiusa poi è tornata poi è venuta sta sempre qua la capa vota vota attorno 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 a te lo cuore canta sempre del tuo reno scusa mai me Yamma 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 yam